ainsi que commence la 530e émission de Plumes et Pinceaux. Avec en face de moi un bon paquet de kilos, un pilier de la radio, Roger. Dit Roger Fringant.
Bonjour.
Bonjour. Récemment grand-père.
Oui, tout à fait.
Félicitations, papa.
Félicitations.
Merci. Et à la maman.
Merci. Et à être cosmonaute.
Bien sûr, évidemment. C'est évident.
Anna, la cosmonaute. Et puis, je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas le droit d'être cosmonaute parce que c'est une fille.
Ouais. Et ouais. Nous avons aussi en studio avec nous Madame Matador.
Salut.
Ah, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas eu parmi nous.
Vous m'attendiez avec impatience.
On sentait que ce « ah », il y avait du contenu. Bah, tu vois, il y avait quelque chose derrière. Il y avait une vraie émotion.
Moi, quand j'aime bien aller dans la librairie dont nous tairons le nom, hein, c'est un secret pour personne.
Toujours des super conseils et tout.
Voilà. Alors justement, comment Madame Matador s'est fait une spécialité de me conseiller tant et moult livres, afin de me faire rire, dit-elle. Donc, on va pouvoir en reparler.
Pour égayer un peu ce quotidien morne et triste.
Et à travers ces conseils, on découvre plein de choses sur vous. Du coup.
Ouais. Sur la vie en général.
Ouais, et peut-être des choses qu'on voudrait pas savoir quelque part.
Moi,
perso, j'ai pas pensé à ça.
Je sens que tu vas assister à mon procès.
Là, ça me fait peur. J'ai demandé à Pierre de me. Ouais, mais Pierre, c'est chiant. Ça va être la Révolution française en 15 tomes. 50 euros l'album relié en peau de chat. Non, c'est chiant.
Ouais. Une émission donc pleine de chroniques, quelques news bien évidemment, et puis de la musique. Et on va commencer avec le... À mon avis, c'est le plus glamour des groupes anglais que je connaisse. Oula. Et le plus jovial. J'adore ce duo. Attention, vous êtes prêts? Get Down Service. Hang my head on the radiator. I hang my socks on the radiator. I bang my head on the radiator. I bang my head. Bang my head on the radiator. I hang my socks on the radiator. Bang my head on the radiator. I bang my head. Stuff's coming out. Oh yeah. Let's actually go. Oh yeah. Weight scales on my belly. Oh yeah. I trust them.
and burial chamber. Oh, yeah. I failed the task. Oh, yeah. Could someone punch me in the face? Yeah. Could I do the questionnaire again, please? I don't think my personality came through.
Je vois rien avec ces putains de lumières.
Bah écoutez, ça fait un très bon enchaînement. Retour au studio donc.
Avec le vieux. Le vieux, il se plaint parce que. Voilà, il a réussi à conserver depuis vendredi dernier l'édition spéciale de Libération, Les Mille et Une Vies de Marjane Satrapi. Mmh. Parce que c'est ça dont, comment dirais-je, on allait parler maintenant.
Bah oui, au moment où nous enregistrons, nous sommes le vendredi 5 et nous on a appris hier le décès de Marjane Satrapi, ouais.
Voilà. Et donc, Les Mille et Une Vies de Marjane Satrapi, comment. Ça a été véritablement une pluie d'hommages, en tout cas, en ce qui concerne. Ça m'a surpris. Comme quoi, je pense que les milliers d'albums vendus n'étaient pas simplement dans les mains de simples lecteurs de BD lambda ou d'habitude.
Non, c'est vrai, ouais.
Et qu'elle a touché un public beaucoup plus large. Après, elle a fait, puis elle a fait plein de choses après. Et c'est marrant, elle a bossé quand elle a adapté Persepolis, avec Monsieur Paringo. Monsieur Paringo qui n'est autre que Monsieur Winchlus, en fait. Parce qu'il a plein de casquettes. Et moi, je l'avais rencontré, moi, avec, Harry Turtle. Moi, on l'avait interviewé lors de Travelling Téhéran. Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Vous deviez être encore au lycée, tous les deux. Et on était arrivés. D'ailleurs, je me demande si c'est pas vous qu'elle avait viré. En fait, c'était rigolo. J'arrive et je tombe sur une copine. On tombe sur une copine qui était à la bénévole, à la buvette, un chat qui craque. Et elle me dit oh, vous allez faire quoi? Je vais interviewer Marjane Satrapi. Elle nous dit oh, c'est horrible. Elle vient de virer des gosses de la salle de. Tu sais, elle faisait une conférence devant des mômes. Puis il y a des mômes qui ont bavardé. Messieurs, je vois que visiblement ça ne vous intéresse pas. Veuillez sortir. Pouf, pif, les profs humiliés, les gamins tout péteux qui sortent. Bref, ça s'était su. Et on arrive. Et on voit là donc cette grande dame très brune, comment dirais-je, avec le contraste de couleurs, son rouge à lèvres flashy et puis toute noire vêtue comme elle a toujours été. Et je lui dis, on lui dit bonjour et tout, je lui dis, ah bah vous avez le bonjour de Monsieur Luz. Et parce qu'en fait on avait interviewé Luz le samedi avant, vous voyez, coïncidence, et il la connaissait puisqu'il bossait à l'association avec Marjane Satrapi. Et comment dirais-je, elle dit, ah vous avez rencontré Luz. Je lui dis, ouais. Elle me dit, ça s'est bien passé. Je lui dis, bah ouais. Bon bah je vais essayer de pas vous faire trop de misère. Oh. Effectivement.
C'était du mind gaming, Roger.
Doute. Je sais pas. Mais en tout cas, peut-être que
C'était une dame qui était, qui laisse aussi l'image d'une dame qui a de la poigne, quoi.
Oui,
qui
sait
ce qu'elle veut, forte, d'une militante, d'une femme forte.
Ouais.
Et elle a fait, mais par contre, on avait fait une très bonne interview, c'était bien passé, etc. C'était rigolo. Et ceci étant, ouais, c'est le souvenir que j'ai, la seule fois où je l'ai vue en vrai. Et après, moi, au final, il y a comment Persepolis. Moi, c'est surtout l'ouvrage qui me fait le plus rire, moi, c'est Broderie. Mmh. Broderie, c'est les discussions des femmes quand les hommes sont pas là. Et je l'ai offert à ma chérie. Et naturellement, je lui dis, il est où ton Broderie? Et elle me dit, je ne sais pas où c'est. Bon, bref, je l'ai pas retrouvé parce qu'il y a une citation qui dit, quand le serpent va se coucher, je sais plus quoi, tout le monde rigole le soir. Et c'est très, très rigolo. Et c'est les femmes, le soir, qui racontent leurs histoires, etc., en totale liberté. Et de manière assez crue, quoi, même. Vous êtes là, wow, purée, ça fait clash, quoi. Et voilà, voilà. Et après, par contre, je dois avouer qu'en ce qui concerne les films, parce qu'elle a toute une carrière de...
Mais à la fin, elle était plus tournée sur le cinéma.
Ouais. Ouais. Et là, à ma grande honte, je n'ai rien vu, moi. Je n'ai rien vu à l'écran, à part Persepolis. Elle a tourné plusieurs films, dont un film d'horreur, notamment.
Moi, ce que j'ai découvert avec tous les hommages qui sont tombés, c'est comment son graphisme aussi avait vachement marqué, finalement.
Toute une
génération.
J'avais beaucoup l'image de la militante qu'on est en train d'évoquer, quoi, de celle qui a montré ce que c'était que l'Iran. Donc j'avais ce côté association, BD qui t'apprend des choses, roman graphique, en fait, c'est la naissance du roman graphique, Persepolis. J'avais sur ce côté-là, et en fait, plein de dessinateurs parlent de ce dessin qui est effectivement apparemment assez simple, mais en fait hyper riche. Elle arrive à exprimer vraiment plein de choses en très peu de traits.
Ouais,
et rose à plat noir. Elle a un style qui paraît simple au premier abord, mais en fait qui est hyper puissant.
Ouais,
en
tout cas, dans l'IB, elle l'a imposé, quoi.
Et dans l'IB, il y a justement 4 pages. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai rendu ? 2, 3, 4, ouais, plus la couverture.
Il y en a des mots, Roger, putain, il y en a des mots.
Qui lui sont consacrés. Et un article où il dit justement les rapports qu'elle avait avec David B. qui fait partie de l'association aussi, ouais. Et qui lui aussi, comme on travaille énormément sur les noirs et blancs, etc., et qui, comment dirais-je, à un moment donné, en tout cas, ils étaient assez proches. Et c'est vrai que son trait a donné naissance à des tas de vocations. Il y a un message très touchant de Coco, justement, il y a plusieurs réactions. Et justement, l'édito est signé de Coco, qui dit combien le travail de Marjane Satrapi, l'avait inspiré. Voilà, voilà.
Et c'est pas la seule, j'ai entendu Pénélope Bagieux en parler. Ouais. Riyad Satouf.
Riyad Satouf, ouais, Riyad Satouf, qui l'avait aussi, fait tourner dans Les Beaux Gosses d'ailleurs.
Et ben voilà, une grande dame de la BD qui est partie bien trop tôt, 56 ans, bordel triste. De bordel.
Oui, en plus dans des circonstances, enfin, mort de tristesse, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre.
Alors justement, on s'est renseigné, ma chérie et moi, parce que je reprochais à ma chérie de ne pas vouloir mourir de tristesse, il devait m'arriver quelque
chose. C'est vrai qu'elle vient une fois à la radio, votre chérie, parce
moi, j'aimais bien, moi, le côté, vous savez, quand Dumollet est veuve sur le bûcher en compagnie du mari mort, je trouvais que c'était des traditions qui avaient de la gueule, certes, qui étaient impressionnantes, qui pouvaient frapper.
Vous sentez la provocation? Vous la sentez?
Oui, j'entends.
Et donc, t'as mal, si je suis appuyé là, t'as mal.
J'ai fait ça à ma chérie, pas plus tard qu'hier, finalement. Et comme elle rigolait, elle dit, de toute façon, tu seras pas là pour savoir si je te pleurerai, mais ça porte à cette maladie. On peut effectivement mourir de tristesse, selon des spécialistes du cœur. En fait, il se passe qu'un choc émotif puissant. Et ça porte, c'est un syndrome qui porte un nom japonais d'ailleurs. Et comme j'ai plus d'imprimante, je vous l'aurais imprimé en deux. Et en fait, ça a été étudié. Et le cœur se déformerait. Avec une partie qui se rétrécisserait, l'autre partie... Et voilà, bref, le cœur ne ferait plus vraiment son boulot. Et le nombre de pères de couple dont le mari ou la femme suivent de très près l'être qui a cher, qui est disparu, c'est beaucoup plus fréquent, en fait, qu'on ne pense.
Ok.
C'est vrai
romantique, quelque part.
Ouais,
c'est elle le disait partout, c'était l'amour de sa vie. Elle a été, ça l'a totalement dévastée, ruinée.
Bah oui.
Et c'est impressionnant, cette histoire-là. Marjane Satrapi.
Très bien. Un petit interlude?
Morceau qu'on lui dédie.
Qui respire un peu, parce qu'il nous a fait une belle tirade. Hein.
Oui.
Ah, il était en fer. Avec les souvenirs d'anciens combattants, tu sais.
Ah bah.
Je vais te dire, il trempe les...
Si vous n'étiez pas fait virer de l'amphithéâtre où opérait Marjane Satrapi tous les deux, peut-être que vous seriez moins constipé aujourd'hui. C'est clair.
Bon, allez, un petit coup de Pennywise, ça fait jamais de mal.
Allez. I said, wait, can't believe it. I said, wait, can't believe it. Another victim, another life, another way to casualty. The youth are shooting, robbing and looting, fighting for society. And I bet you see it every day on your TV, on your front page. You can't try, but you can wish it away.
Moi, ça me donne envie de faire du roller. Je sais pas pourquoi.
Je pourrais vous montrer.
Private joke.
Je ferais une petite démo.
Ah, je dois avouer que ça serait stylé.
Ouais.
J'allais dire, vous avez sans doute encore des choses à évoquer, je crois.
Mais oui, et oui, parce que comment
Monsieur Fifrelin, c'est ça?
Ouais. Pour lui donner, j'espère qu'il a bien pris de note parce que c'est tenu les 7 et 8 juin dernier. Les rencontres, comment on appelle ça, les
rencontres nationales de la librairie.
Alors voilà, pourquoi ces rencontres nationales de la librairie? Tout simplement parce que les librairies sont en crise.
Oui, alors c'est à l'initiative du SLF, le syndicat de la librairie française. En fait, ce sont des journées qui permettent à la profession de se rencontrer pour évoquer un peu les enjeux du monde du livre, hein, puisque y a les libraires, mais il y a aussi évidemment les éditeurs, etc. Et donc, c'est pour évoquer tout un tas de sujets. Là, je crois qu'il va être question de la dégafamisation. Donc c'est comment dans sa communication en librairie maintenant ne plus utiliser les gros groupes Facebook et compagnie. Y a des enjeux écologiques aussi, donc c'est des métiers où il y a beaucoup d'envois de cartons, etc. Donc
c'est,
voir
c'est
comment
comme
on peut
si
réduire
on se
l'impact
un peu
aussi
en contre de l'IA en fait et de tout ce qu'elle provoque finalement comme mise en concurrence.
Exactement, ouais. Et puis, ouais, c'est vraiment...
Vous voyez ça comme ça ?
Ouais, mais c'est aussi... Ouais, et puis,
pas utiliser le GAFA, enfin...
Ouais. Ouais, c'est ça, c'est essayer de se détacher un maximum de tout ça, et puis d'être...
Ça vire gauchiste.
Le plus... Et pourtant, c'est à l'initiative d'un syndicat de patrons.
De petits patrons.
De petits patrons.
Et justement, ça sera l'occasion aussi de parler de la crise des ventes, parce qu'il semblerait, parce que j'ai quand même entendu dire que c'est le Furet du Nord ou le Furet de l'Ouest.
Oui, Furet du Nord, De Citre, tout ce groupe-là là, qui est
Gibert
en...
Gibert aussi, ouais. Gibert à Paris.
Ouais, ça sent un peu le roussi. Alors, est-ce que dans la BD... je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Est-ce que dans la BD, vous avez le droit...
Est-ce que vous pouvez répondre?
Mais non, mais
je sais pas.
J'en sais rien. Mais est-ce qu'il y a cette contraction des ventes, vous observez vous aussi? Parce qu'apparemment, c'est une crise qui touche pour le moment le livre sans images, si j'ai bien compris.
Oui, effectivement. Alors, globalement, les librairies vont pas très bien là depuis le début de l'année. Nous, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la BD ou aux librairies rennaises, mais c'est vrai qu'on arrive quand même à se maintenir relativement bien. Mais oui, après, on a constaté là sur le début d'année en fréquentation, c'était un peu plus compliqué, quoi. Et puis, c'est ça aussi les enjeux, c'est qu'est-ce que la librairie peut faire, qu'est-ce que les libraires peuvent faire pour donner envie aux gens de venir, parce que des bouquins, il y en a même peut-être même parfois un peu trop, donc comment on fait venir les gens.
On va mettre les jaquettes sur les livres, que les gens et les ouvrages complets, peut-être, ça pourrait être une idée.
On vous en parlerait à Fifrelin du coup des jaquettes.
Alors, j'espère que Fifrelin a pris plein de notes, parce que quand il va repasser, ça aura bon daté de 15 jours, il va en parler et puis c'est tout.
Ouais, vous avez attendu 18 minutes avant de parler des jaquettes. Moi, je suis surpris.
Ouais.
Vous êtes pas en forme, mon beau Roger.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce mot.
Comme quoi, vous voyez, comme quoi on dit toujours, oui, il est mauvais, le Roger. Mais pas tant que ça, pas tant que ça. Est-ce que, alors, encore une nouvelle, mais je crois que c'est l'époque qui veut ça, en fait. Savez-vous qu'il existe désormais, alors il vient de perdre son procès, mais un marchand d'armes avait trouvé judicieux le fait de donner le nom d'Obélix à son entreprise.
Ah.
Quand même. Et c'est-à-dire qu'il avait un peu extrapolé le concept de la potion magique, et c'était la société Obélix, vente d'armes, etc.
Okay.
Puis du gros calibre, pas pour la chasse aux colibris.
Ok,
chasse au menhir, minimum.
Ouais. Et il y a eu procès, il a perdu. Et c'est assez amusant, d'ailleurs, de voir que, comment dirais-je, la bande dessinée rentre dans le domaine aussi de Lord of War. Et...
On peut aimer les flingues et lire de la BD, je veux dire, c'est quoi ces clichés, quoi.
Mais c'est pas mal qu'il ait perdu, du coup.
C'est pas mal. Est-ce que vous voulez que je termine par quelque chose dès que j'aurai réussi à remettre mes...
Non, moi ça va.
Quelque chose de joyeux, peut-être.
Ah, bah voilà, voilà. Vous voulez du joyeux.
Bah ouais, parce que
alors,
là,
attendez,
on était quand même dans le...
Je fouille. Mais je vais vous trouver quelque chose tout de suite de joyeux.
Mon ami, il a tout. Tu veux un truc? Il te le trouve.
Ah ben ouais.
Il est à fond sur son,
mobile. Je vais sur le dossier plus mes pinceaux. Quand je vois Scandale AG, ça, non. Ah si, c'est ça ma bonne nouvelle. Ah, il y aura au Festival de Cannes Blaise, le film Blaise passe de la BD au cinéma sans rien perdre de sa gênance. La famille sauvage inventée par Dimitri Planchon, qu'on trouvait dans Fluide glacial, mm-hmm. s'il vous plaît, avec ses personnages dysfonctionnels, débarque sur la croisette dans la section acide en version animée avec les voix de Léa Drucker et de Jacques Gamblin. Vous savez, c'est une espèce de personnage. Moi, je veux regarder ça avec mes mômes. Il faisait un truc pour mômes. Là, apparemment, les mômes ont grandi. Quoi. Ben, mon fils avait 6-7 ans quand il regardait ça. Maintenant, il en a 30. C'est plus pour les trentenaires. C'est rigolo.
Et je visualise plus cette série.
Cette espèce de collage. C'est tout pourri. L'animation paraît tout pourri. Un peu comme quelque part, je dirais.
Quelle jolie description.
Ben, c'est-à-dire que c'est imaginez des photos de catalogue qui sont découpées et on fait bouger les têtes en coupant les lèvres, etc. C'est tout vilain. Mais l'humour est plus que caustique et il a aussi sévi dans Fluide glacial, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis content qu'effectivement ça faisait, on vous dit qu'un film qui reste fidèle à l'esthétique désuète, presque kitsch, de l'œuvre originale avec des dessins colorés et figés d'un réalisme frôlant la caricature. Voilà, l'auteur s'appelle Dimitri Planchon et envie de lire la suite, il faut vous abonner au Monde. Et comme je ne me suis pas abonné au Monde, sachez quand même que le titre du film s'appelle Blaise. Voilà.
Oui, c'était ça.
Voilà, c'est ça, c'est énorme.
Oui, ça passe bien la radio, ça.
Ouais. Oh. Vous pouvez nous dire.
Maintenant que j'ai vu, c'est bon, je m'en souviens. Ouais. Oui. Ça date un peu, ça.
Ouais,
ça
les gens iront voir en même temps, ils se diront ah, mais oui.
Mais oui, mais bien sûr.
Il vous en reste du Blaise en.
Non.
C'est le début d'une nouvelle croisade, là, vous le sentez pas si. L'appel au djihad, là. Nous voulons du retour de Blaise.
Mon Dieu. Bon, ben, ça sera tout.
On va écouter alors Johnny Montreuil, on va aller dans sa caravane. Tous les dimanches, Johnny Montreuil fait un cover dans sa caravane avec ses potes. Et c'est marrant de voir les titres qu'il choisit. Et je crois que Fier d'honneur infier de Olly Weinstein, ça devait être la deuxième reprise qu'il avait, okay. qu'il faisait.
Ils ont fait dans leur caravane, ouais.
Et il a fait Marie et les garçons, Bebop, etc. Plein de trucs, c'est vraiment bien. Donc on s'écoute Johnny Montreuil.
Allez,
c'est parti. Allez profiter de tous les covers que fait Johnny Montreuil. Il suffit d'aller sur YouTube et de chercher sa page et vous tomberez sur plein de petits bijoux comme celui-ci. Alors, honneur aux dames.
Allez, c'est parti pour les chroniques.
Ouais.
C'est
une belle couverture.
C'est une belle couverture, n'est-ce pas?
Et alors, c'est du poids.
On va encore
poids.
Me dire, ça ne se voit pas à la radio, mais vous pouvez en profiter en studio.
Ah ben,
je vois une pub pour les vins Nicolas. Je me rappelle d'un bonhomme qui portait plein de bouteilles sur le côté, comme ça.
Vous salissez tout. Alors, c'est pas grave. Oubliez. David Salah.
On est proche de la peinture, moi je
dirais. Ouais, c'est très beau. Et puis, on va en parler. Mais effectivement, il y a plein d'influences. Du coup, là, je vais vous parler de Frankenstein de David Salah. Donc, le Frankenstein d'après Marie Shelley, évidemment. C'est graphiquement vraiment magnifique.
C'est vertigineux.
Chaque case, on
après,
peut
faut
dire,
aimer
est
le beau dessin
tableau.
À Roger, hein, c'est sûr.
Oui, c'est sûr.
C'est vous sûr. Noterez, je ne dis rien, je respecte le c'est travail vrai. De
il est tombé
Matador.
Ébloui.
Pour l'instant.
Pour l'instant.
Donc vraiment, ouais, un très beau découpage, des cases à chaque fois. C'est
la
vraiment,
couverture fait très Klimt, des... oui, et dedans, il y a du bacon
Klimt,
dans les influences.
Bacon, il y a vraiment plein d'influences.
Est-ce que vous vous rappelez de Mazzotti, ça vous dit quelque chose, à l'Italia?
Ouais, y a, mais en fait, ça fait, je trouve ça très italien aussi, ouais. Parce que rien que... En
mais au début, voilà, ce genre de personnage, j'avais pensé à Mazzotti.
Ouais, okay. et moi, à Topi, tu sais, quand il fait les trucs à la Klimt,
Topi,
avec
ouais.
les costumes hyper travaillés.
Mais là, par contre, plus barré niveau couleur, parce que là, niveau
oui.
couleur,
alors,
ça
David
crache.
David Salah, il utilise toujours des couleurs très chatoyantes, voire flashy. C'était le cas dans son précédent, qui s'appelait Le poids des héros, qui parlait là de l'héritage familial. C'était l'histoire de son grand-père qui a vécu des choses atroces, qui est allé dans les camps de la mort, qui a vécu l'Espagne sous Franco, etc. Donc vraiment un lourd passé. Il parlait de la manière de se construire quand on a quelqu'un comme ça dans sa famille qui a vécu... Mmh. qui a eu une vie aussi, aussi rude. C'était vraiment déjà une grosse claque. Et là, c'est assez magistral, cette réinterprétation de Frankenstein. Donc, on retrouve le Victor Frankenstein qui va commencer à se poser des questions, à vouloir... reproduire la vie et ramener ouais c'est ça être un petit dieu et du coup on le voit donc dans sa tentative de ramener un corps à la vie il y arrive et ce qui est très fort dans ce récit et c'était déjà le cas à l'origine mais c'est de voir à quel point cette créature qui peut être parfois très féroce très très violente fait aussi preuve d'une très très grande humanité de sentiment très fort, à l'inverse de Victor Frankenstein, qui lui a un côté presque monstrueux, en tout cas.
Un peu nazi.
Il y a quelque chose de... Ouais,
mais c'est vrai que c'est un récit qui est très très fort à la base.
Ah
enfin,
ouais,
je veux dire,
moi j'ai toujours aimé cette histoire. Et...
Ça a inspiré, enfin, Blade Runner, pour moi, c'est un peu une espèce de continuation de ça.
De
c'est
ça,
l'homme qui crée la vie, qui crée des créatures pour... sortir de sa propre situation de créature et devenir un
c'est
dieu
ça,
quoi.
Et devenir le créateur ouais,
imiter
c'est...
Dieu pour se grandir
et puis enfin, c'est vraiment
Marie
les interactions
Shelley.
Entre les personnages sont très fortes et je trouve que dans la BD alors je ne sais pas si vous l'avez vu mais Guillermo del Toro a fait un Frankenstein aussi assez
ouais.
récemment et on retrouve enfin moi ça m'a vraiment fait penser au film que j'avais vu peu de temps avant de lire la BD et c'est les deux
c'est encore
Von
l'image
Père
de Boris Karloff
et... et ça dénote
c'était
complètement
le meilleur on
n'a
pas fait le meilleur Frankenstein
je crois que c'était George Bess qu'on avait fait un Frankenstein en
oui,
BD
aussi, ouais.
Qui était là pour le coup très sombre plus gothique dans le
c'est
dessin
c'est ça qui
etc.
montre aussi la puissance du récit de
mais
base
complètement
quoi.
Ouais c'est
comment
que
les gens s'en emparent
vraiment de manière tout à fait différente mais la force du récit reste effectivement c'est
et vraiment il faut insister parce que là il faut aller à la librairie et regarder
ouais,
feuilletez-le parce que graphiquement c'est vertigineux quoi.
C'est, là je suis sur
la planche, la garde.
La page 214 est assez incroyable.
On se croirait sur la lune.
Ouais, ouais, ouais.
Et
en plus, dessiner la neige comme ça, faut être doué,
du
quoi.
Du coup, il crée vraiment une ambiance, il nous emmène vraiment. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il y a, je sais pas, ce petit côté... seul face à sa BD, on est vraiment emmené dans son univers, on est avec lui. Et... Donc voilà, je recommande vraiment chaudement Frankenstein par David Salah. C'est un vrai régal. Ouais. Il est en bonne position pour être mon coup de cœur de fin d'année.
Voilà. Oula, alors, chez Monsieur Casterman.
Chez Monsieur Casterman, tout à fait.
Un bel ouvrage. Un grand ouvrage.
Un grand ouvrage.
Un grand et gros ouvrage.
À 28 euros.
Il y a combien de pages là-dedans?
Il y en a, je vous dis ça.
Il y a 300 et quelques, non?
320.
Oh là là, puis à la fin, c'est vrai, je me souvenais.
Il y a un cahier graphique.
Ouais, il y a un cahier graphique, c'est magnifique. Alors, je vous dis, il y a 200, ouais, c'est ça, 220 pages.
220 pages. C'est vraiment très très beau. Mmh. Alors ça, c'était vraiment la minute qualité, parce que maintenant, Roger, il va tout saloper.
C'est vrai.
Ouais, allez-y. Oh, elle vous a...
Non, c'est pas ça, c'est que je me dis, tant qu'à faire dans le Télérama, là, on fait une bonne dose, le couloir... De couloir,
comme
et
vous
puis
êtes.
Après
comme
on
vous
arrive
êtes.
Dans le sérieux, quoi.
Non, moi, je vais vous proposer une grande aventure.
Voilà, je suis revenu. Voilà.
Bon, après, je reconnais que je suis un sujet sensible à ce genre de BD. Moi, tu me mets des jolis uniformes, des jolies moustaches.
Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Quand vous m'avez parlé de jolie, vous m'avez fait peur. Maintenant, jolie moustache, ça va. Moustache.
Ouais. Vous me plongez dans l'époque napoléonienne, moi je signe.
Alors,
ça s'appelle Braquage à la hussarde.
Oh là.
C'est Monsieur Fab au dessin et Monsieur Brugéas au scénario chez Comics Bureau. Voilà, ça dit quand même déjà un peu vers quoi je vais. Je vais vers du grand blockbuster américain, moi, je vais. C'est chez Glénat, donc du coup,
ouais.
Par association. C'est le récit d'un casse, effectivement, qu'on va nous offrir à l'époque napoléonienne. Moi, bon, ok. C'est vrai, les uniformes, comme je l'ai dit, je signe. Mais là, vraiment, c'est un super scénario. Parce qu'en fait, il y a un petit côté, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Roger, de l'or pour les braves, avec Clint Eastwood, Kiefer Sutherland, tu vois pas ? Des soldats qui profitent de la fin de la guerre pour aller faire un braquage.
Ah, j'ai pas vu ça.
Ah, vous connaissez pas ce film ? Alors, je vous le conseille, rien que pour Kiefer Sutherland, qui est chef de char dans un Sherman.
Kiefer Sutherland, c'est celui qui joue aussi dans MASH, c'est ça ?
Ouais, exactement.
C'est une espèce de mec qui a envie d'être son pote parce qu'il a l'air de rigoler tout le temps.
Ouais. Là, il joue un chef de char américain, enfin, dans de l'or pour les graves, un chef de char américain, Sherman, en 44, ça a une histoire de braquage, et c'est des hippies avant l'heure, c'est très rigolo, ça vous plairait. Ils font le sous-marin dans leur char.
Allez, j'aime bien la tronche qu'il a.
Les têtes, ouais.
Bref, je pense qu'il y a une petite influence, parce qu'en fait, voilà, on est en 1814, on est en France... on est sur la fin de l'Empire, la fin d'un monde. C'est toujours fascinant, une chute en fait, la chute de l'Empire romain, etc. Les armées donc alliées, ils sont nombreux, les Russes, les Autrichiens, tout le monde est contre nous en fait. Tout le monde nous déteste. On a une grosse cote de popularité à l'époque. Et bon, Napoléon fait encore des coups d'éclat, mais on sent bien que c'est fini quoi. Et donc on va suivre en
il
fait
un. Il a plus le cœur aux conneries.
Hein ?
Il a plus le cœur aux conneries.
Ben c'est surtout que vraiment il y a trop de monde contre lui. La logique mathématique est contre lui de toute façon.
Allez savoir pourquoi.
Allez savoir c'est pourquoi. Étonnant. On a dû embêter un peu les voisins.
On les avait fait chier peut-être, non ?
Un petit peu. En fait, tout part d'un courrier qui a intercepté. Un courrier d'une comtesse exilée qui est revenue en France avec un sacré paquet d'argent et elle envoie, c'est une lettre dont le destinataire est codé et mystérieux, mais qui est un type qui travaille auprès de l'empereur et on découvre, enfin les personnages vont découvrir que cette comtesse prépare une espèce de réseau secret pour aider le retour des Bourbons. Parce que la chute est proche, quoi. C'est une espèce de comtesse qui est vaguement consigne avec le gros Bourbon qui est prétend au trône.
Louis XVIII.
Ouais. Le courrier donc a été intercepté par des hussards et l'empire s'écroulant, la police secrète s'en empare pas et il y a un groupe d'officiers va décider d'aller braquer la comtesse.
Ouais.
Ouais. Pour récupérer l'or bien sûr et la correspondance. Alors on va les découvrir. Hein, ils sont cinq. Ils vont détourner un petit peu leurs ressources militaires, une compagnie d'infanterie, un canon, enfin quelques hussards, etc. Alors il y a un polonais, il y a Piotr, il y a un hussard. Enfin ils viennent un peu. C'est un petit groupe comme ça. Tu comprends qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Ils vont faire ce braquage. Alors c'est toute l'histoire du braquage. Et le problème, c'est que la comtesse a tout foutu dans un coffre et il faut lui arracher le code. Évidemment. Et là, il y a des questions d'honneur qui se posent, torture, pas torture, etc., 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 etc.
Ah bah ouais, mais si on fait dans le sensible,
voilà,
on n'avance à rien.
Et puis tu sais, quand il y a un gros paquet d'argent et que tu sais que le système dans lequel qui avait fait ta promotion sociale est en train de se casser la gueule. Tu commences à penser à une retraite dorée aussi, quoi. À partir aux Amériques avec du pognon, par exemple, c'est pas mal. Donc des fissures vont apparaître dans le groupe des Français pendant qu'ils essayent d'avoir ce code. Tu vois, ils sont enfermés dans le château de la comtesse qu'ils ont braqué, qui est dans une zone plutôt contrôlée par les Russes. Donc il y a une espèce de mise de cocotte minute, quoi. Et pour ça, c'est vraiment très réussi. Okay. C'est vraiment un grand film d'aventure, en fait. Ça ferait avec des beaux uniformes napoléoniens, des moustaches, le petit polonais. Ah, il a du style. Moi, j'ai dit, il a du style.
C'est pas le petit polonais, c'est le petit corse, vous vouliez dire.
Ah non, 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 là, on ne voit pas le petit corse. On en parle beaucoup.
C'est Piotre dont vous parlez.
Ouais, ouais, c'est ça. Je le trouve très stylé. À un moment, je me suis dit, mais mon tatouage, ça claque, ça.
Vous allez avoir des ennuis.
Parce qu'il y a une page où on nous présente les personnages, comme ça, façon portrait, tu sais, dans un truc ovale. Enfin, bref. Oui, on peut dire que c'est peut-être un dépravé, mais en tout cas, c'est une super aventure.
Non, non, gentiment détraqué, comme un paquet de bonhommes, apparemment.
Et pour vous dire que le dessin est très réussi, les chevaux sont vraiment très, très bien faits. Mmh. Voilà. Et il fait pas des trucs de poussière et tout ça. Ouais, très, très bien. Braquage à la hussarde. Monsieur Fab, Brugéas, Comics Bureau, donc Glénat, forcément.
Ok, ouais, oui, c'est la collection.
On s'écoute un petit X.
Bien sûr, Shit Kid.
Ah.
Le groupe s'appelle Shit Kids. Ils s'en foutent.
C'était fort bien.
Merci.
Non, excusez, je suis.
Au moins une personne m'écoute de temps en temps.
Non, mais il suit pas.
Ah, la pourrite. Elle est la pourrite. Elle était justement en train de me dire que une des autrices du livre dont elle va nous présenter.
C'est comme votre petite fille.
Ouais, elle a le prénom de ma petite fille, d'où ma perturbature.
Putain, comment elle t'a paralysée.
Bah ouais.
C'est si facile. Ouais.
Elle a appuyé sur un centre nerveux.
Bah ouais, crac. Et puis bah voilà, j'ai pas vu que la musique, puis la musique s'arrêtait un peu d'un coup. Donc je crois qu'en plus c'est à moi en fait.
Absolument.
Et bah, après, voilà. Si vous avez rien à dire, on passe. Hein.
Moi, je vais passer à la Nouvelle-France. Je vais faire un peu sérieux, au moins un sérieux avant de rentrer dans le vif du sujet, si j'ose me permettre. Bref, un ouvrage que l'on m'a chaudement conseillé, pas dans la librairie dont nous tirons le nom, mais en tout cas on me l'avait conseillé. Et je remercie d'ailleurs comment cette personne, puisque avec monsieur Desberg et Vranken, alors ça vous dit peut-être plus rien, Erwan, mais
Desberg, je me souviens, si, c'est un scénariste.
Nous avions, monsieur Desberg, nous avions fait un plateau à Saint-Malo avec lui. Il était venu
ancien
en direct.
Ancien combattant.
Et c'était. Non, mais c'était très très bien, parce qu'il était venu nous présenter Les Enfants du Ciel avec le même auteur. Monsieur Vranken. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça?
Mais pourquoi dites-vous ça?
Parce qu'en fait, c'est un peu le même délire. Avec l'ouvrage qui... le même trip, en fait. Avec l'ouvrage précédent qu'ils avaient réalisé, Les Enfants du Ciel, on abordait la naissance d'Israël, les problèmes du fond des extrémismes religieux, etc. Il avait transposé ça dans les années 30, sauf que, effectivement, on y est tout... une sorte d'avertissement, ou un témoignage de ce qui allait se passer aujourd'hui encore. Et bien là, ils font pareil. Mais il remonte dans le temps, et il fait ça avec la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, ça ne dira plus rien à personne. C'est là un peu où on voit un peu la vanité des guerres, mon Dieu. Mais ça a quand même changé.
Si, on se battait en Europe, dans les Caraïbes.
C'est un peu ça. C'est un peu ça que M. Desberg tient à nous montrer à travers le destin de son personnage, un pauvre bonhomme qui était un Français. Colon français qui avait réussi à se démerder pour vivre tout seul. Il s'était fait, adopter par une tribu d'Indiens. Il avait eu une femme, il avait un fils. Sa femme est morte et il reste son fils. Et par contre, il se retrouve embringué déjà dans la guerre locale qui oppose déjà les Indiens des différentes tribus, sachant que les Indiens aussi sont manipulés par les puissances coloniales présentes, à savoir la France et les Anglais. Et
toujours les mêmes.
En plus de ça, on va suivre ce personnage. C'est un bouquin assez gros, du coup. Un album, il doit être encore plus copieux que le précédent, que Les Enfants du Ciel, parce que notre personnage, pour illustrer justement cette mondialisation de la guerre, va se retrouver à être obligé de faire la guerre en Europe. Et on voit d'ailleurs, il se bat contre des Prussiens. Et c'est rigolo parce que d'ailleurs, on voit un Prussien dans la nuit, il dit Gott in Mel, puis il a une tête de mort sur sa casquette. Ils ont toujours eu ça, en fait, les Allemands. Bref. Je dis ça, je dis rien.
Et je constate.
Tout ça servi par le dessin de monsieur Vranken, que je le préfère, moi j'avais bien aimé dans Les Enfants du Ciel avec une dominante rouge. Là on est dans une dominante bleu froid parce que on est au Canada beaucoup, puis quand on est en Europe c'est aussi la bouillasse, on se tape sur la gueule, c'est pas très fun. Et comment cette ambiance tragique de massacre et de baston est super bien rendue, et l'opposition entre cette espèce de personnage qui essaye de glisser sur l'événement, parce qu'il voit bien que ça part en sucette, et il aimerait bien, lui, peinard, partir avec son fils survivant, et puis aller loin, un peu comme Jeremiah Johnson, je sais pas si ça va vous dire quelque chose, le beau long, là, comment il s'appelle,
Robert Redford.
Le beau Robert Redford qui s'enfonce dans la forêt pour ne plus jamais revenir. Et ben, c'est ça, un peu le personnage principal de Nouvelle-France. Tout ça pour, montrer le désastre des rivalités coloniales et de quelque part ce qu'on pourrait appeler la première guerre, une guerre mondiale.
Une guerre pré-mondiale. Sans le côté industriel.
Voilà. C'est chez monsieur et madame, sans doute. Est-ce qu'il y a une madame? On dit toujours monsieur Daniel Maguen. Bah oui, c'est Daniel, ça serait deux LE si c'était une femme.
Peut être ELE aussi.
C'est Daniel. Donc c'est monsieur Daniel Maguen.
Qu'est-ce que vous êtes perspicace.
Eh ouais, j'adore. C'est quand même dingue. Hein.
Ça le rend heureux.
Nouvelle-France. Et je suis sûr que ça fait un tabac dans votre
boutique. J'ai vu un truc que t'as pas vu.
Et je suis sûr que ça fait un tabac dans votre
boutique.
Et je suis sûr que ça fait un
tabac. Absolument.
Un tabac, absolument.
Voilà. Ah, mais la couverture est super réussie.
Il y a quelques
produits d'appel.
Le cheval est bien dessiné, là aussi.
Ouais.
Et j'aime bien le... Alors, il y a un méchant. Le méchant, on le retrouve là. Il y a un Indien, un Iroquois. Tête de putois, on va dire. Il n'est pas sympa du tout.
Et forcément. Ouais. Les connaît-on vraiment?
Le Iroquois, c'est un peu comme la manie de phalloïde, genre. Et il est là pour killer... je dis ça, le Iroquois, parce que nous, on était potes avec d'autres Indiens. C'est les Iroquois qui étaient pour les Anglais, je vous ferai dire. Et ça, on l'a jamais oublié.
Ouais. Touche pas à nous. Dans tous les cas, on les a exterminés, quoi.
Ouais, alors, quand celui-ci peut dire qu'il kiffe les autres déguisés en Napoléon Ier, ça pose pas de problème. Moi, je vous parle de la guerre. Alors, c'est vrai, un peu plus la guerre en dentelle. Et par contre, originalité. face à votre précédent ouvrage teinté de machisme, mon bon ami. Là, il n'y a que des gars, ces braquages.
Là, il y a une femme qui fait la vaisselle, non?
Comme vous y allez. Celle que je vous disais, qui pense, qui me faisait penser un peu à des dessins de Hugo Pratt dans les premiers Sergent Kirk, etc. Et ben celle-ci, en fait, comment son père devenu veuf l'avait emmenée à la guerre avec lui, elle était déguisée en garçon. Et son père va se faire buter par des Français, et du coup c'est une Anglaise, elle, et elle va dire, et ben puisque c'est comme ça, les Français, je vais tous les cotir. C'est un peu,
Elle a un rôle important.
Attendez, okay. Je l'ai pas vu beaucoup fumer le pemmican. Hein. Je l'ai plus vu manier le coutelas et le fusil.
Ok.
Voilà. Je passe. Tu vois, maintenant, dans chaque album, maintenant, les femmes doivent au moins égorger 2-3 méchants. Sinon, on ne passe plus le hashtag B2BD, où la femme ne doit pas être représentée
sans
comme un être faible.
Sans aller jusque-là, effectivement, c'est bien aussi d'avoir des personnages féminins qui ne sont pas là juste pour décorer, assure, quoi.
Ils y ont veillé, d'ailleurs, il m'a appelé le scénariste. Il m'a dit, tu crois vraiment, Roger? Alors, je lui dis, si tu fais pas ça, Franck...
You're dead.
Trop, Roger, vous en faites trop.
Je ne dors plus. Desberg et Franken, on a même eu le tampon hashtag MeToo, impeccable, ça passe.
Parfait.
Nouvelle France, chez Daniel Meghen.
Et bien, à vous.
À moi, vous. Allez, et ben c'est reparti. Alors moi, je vais vous parler de The Puzzle Game, un polar paru au Lombard avec au scénario des gens que je ne, une personne que je ne connaissais pas, Eric Anna, Eric avec un H, Anna aussi, au dessin Denis et à la couleur Léa Chrétien. The Puzzle Game, c'est un super polar qui nous embarque assez rapidement. En fait, le postulat de départ, c'est un célèbre romancier, Fred Stone, qui vit complètement reclus depuis l'assassinat de sa femme en plein sommeil. Vous avez envie de rire?
Non, ça sent le gros polar américain.
Mais oui, non, mais c'est bien ça.
Non,
et
je
du
vous
coup,
écoutez religieusement.
Ok, autant pour moi, pardon.
On n'est pas tous hostiles dans cette pièce.
Moi, je ne parle pas d'hostilité.
Moi,
je ne veux pas me vautrer. Je refuse de me vautrer comme vous dans la complaisance avec le grand capital commercial.
Non, mais je l'ai entendu.
Ben oui, parce que je sais ce qui m'attend après, ça me stresse.
C'est donc ça que j'attends.
Matador, je vais prendre ma limonade, c'est pas un geste hostile, hein, okay. On est d'accord?
Lâche ce flingue.
Alors allez-y, parlez-nous de cet ouvrage avant qu'il vous coupisse.
Tout à fait. Donc, je reprends. Donc, The Puzzle Game. On suit donc un romancier célèbre, Fred Stone, complètement traumatisé, qui vit vraiment presque comme un ermite dans sa grande maison suite au décès de sa femme qui était arrivée 3 ans plus tôt. Je crois que ça, c'est en année que ça se compte. Du coup, sa femme a été tuée. Ils étaient dans leur lit, ils dormaient. Paf, il ouvre les yeux. Il voit un type qui bute sa femme juste à côté de lui. Lui sort son flingue. Le but à son tour et
je sais pas.
J'ai eu un air de déjà vu.
Je la refais une troisième fois.
C'est horrible. Vous pouvez me faire confiance. Moi, j'attaque toujours de face. Tu vois. allez prendre l'air, mais laissez-la chroniquer.
Donc, sa femme est morte.
Moi, je trouve ça hyper passionnant jusqu'à présent.
Mais oui. Donc, vous avez compris qu'il avait perdu sa femme dans son sommeil.
Dans des conditions affreuses.
Et donc, c'est bien ça. On le retrouve 3 ans plus tard, dans les années 80. Ce type-là donc, est recontacté par Velma, une vieille amie, certainement un peu... Qui profite un peu de la notoriété de ce gars. Elle, on sent que c'est une actrice, mais qui n'a pas vraiment percé, qui a eu à un moment donné un rôle dans un film de seconde zone qui a marqué une génération, mais rien de plus. Donc elle lui court un peu après pour qu'il la branche sur d'autres projets, parce que lui a des contacts de par sa notoriété. Donc elle redébarque dans sa vie, et un autre type... qui est son agent, je crois, redébarque aussi et lui annonce qu'il va devoir être le président d'un jury, le jury d'un grand événement cinématographique, un petit festival, non pas un grand événement, un petit festival de cinéma et littérature dans son bled, donc un petit truc local. Lui, il est dégoûté parce que, en tant que mec qui essaye de vivre le plus possible reclus, ça lui fait pas du tout plaisir de devoir parler devant une assemblée, de se montrer en public, etc. Ils réussissent à le convaincre, etc. Et lors de cet événement, il va voir une femme. Une femme, paf, instantanément, il se dit « Putain, c'est le sosie de ma femme morte. »
Comment il s'appelle le film d'Hitchcock qui parle de ça?
Psychose.
C'est pas Psychose. Vertigo.
Ah oui, Vertigo, ouais. Et du coup, donc, il la voit, ça le chagrine, ça remue plein de choses. Il réussit à retrouver cette femme, parce que cette femme, en plus, elle fait des apparitions un peu furtives. Et il réussit à la recroiser, à la retrouver dans un café. Ils font connaissance, il lui avoue, quand je vous ai vu, c'était incroyable. Vous ressemblez terriblement à ma femme décédée. Et... il a une aventure avec cette femme, et alors qu'ils se disent, pourtant il y a des mots assez forts, entre nous rien ne sera possible, etc., mais bon, ils couchent ensemble, et le truc c'est que l'histoire se reproduit. En pleine nuit, il se repasse quelque chose, du même acabit que 3 ans auparavant, et là,
qu'est-ce qu'il
on
dit
rentre...
au flic ? Mais c'est pas de ma faute, à chaque fois que je vais avec une fille...
elle se fait buter.
Il y a quelqu'un
alors,
qui
elle,
sort
elle,
et
elle,
dit,
elle ne
ah,
meurt pas.
Bien fait pour ta gueule.
Elle ne meurt pas. Et donc, à partir de là, on va suivre une enquête, et puis l'histoire se découle. Je n'en dis pas trop, parce qu'après, il faut quand même la surprise. Ouais, mais ça accroche vraiment, ça fonctionne hyper bien. Nous, tous les trois, à la librairie, on a vraiment été... pris dans l'histoire, bien surpris par tout ce qui se passe après les deux événements dont je vous ai parlé. Et donc, c'est un vrai bon petit polar qui n'est pas sans rappeler un polar de... Je crois que c'était Brubaker et Phillips qui avaient fait ça. Mince, ça s'appelait...
Oui, c'est les spécialistes
du
polar américain.
Et qui se passait dans un lotissement. J'ai mangé le titre, mais c'était vraiment chouette. Et
graphiquement, c'est comment ?
Et graphiquement, alors c'est...
C'est un peu
assez classique. Ouais. Assez classique, ça.
Alors, c'est marrant parce que ça ressemble pas du tout à la couverture. C'est peut-être ces grands plans là qui sont un peu originaux, des grandes.
Oh, fesses, zizi. Je suis tombée sur la page de la scène d'amour.
C'est une malédiction. On va mettre ça sur le compte de la malédiction.
En fait, ces albums, ils sont surtout très forts dans les découpages, les cadrages,
ouais,
et tout ça.
Ouais.
C'est très cinématographique.
Exactement, c'est
après,
vraiment
Brubaker
ça.
Après, et Phillips, c'est beau aussi. Il y a des maîtrises de noir qui sont chouettes. La couverture est très belle aussi.
La couverture, ouais, c'est tout de suite...
De toute façon, ça mériterait que je l'achète tellement je me suis marré dessus.
Et Puzzle Game, il porte bien son nom. Il porte très bien son nom parce qu'effectivement, plein de petites pièces viennent... s'encastrer les unes dans les autres pour qu'enfin se dessine la vérité. C'est au Lombard. C'est assez rare de voir ce genre de... Même le format au Lombard est plutôt rare. Ouais. Mais vraiment très efficace.
C'est
Puzzle
Game. C'est lui qui faisait Ricochet.
Tout à fait, mais alors par contre, ça n'a rien à voir avec The Puzzle Game.
Non, mais c'est juste pour dire un truc.
Ils font Alpha aussi, je crois.
Musique.
Allez.
Oh,
Je vous laisse présenter le groupe
Agnostic Front.
Et ouais, Roger.
Et ouais, c'est hardcore peu, américain.
C'est un peu mou, je trouve. Je vous avais habitué à plus couillu.
Bon, vous avez les cheveux tout en pétard.
Alors, je crois que c'est à vous.
Ouais, c'est un peu Kuba, le coup des cheveux.
Ouais, mais je me prépare à ce qui m'attend, c'est pour ça que je sors tout, là.
Allez, vous avez encore quelques secondes à souffrir. Je crois que c'est à moi.
Oui, c'est à vous.
C'est à
alors,
vous.
J'y vais.
On vous écoute.
Alors, le... Waouh, c'est le prix du titre le plus long.
Ah, oh, putain.
The Wicked Eyes Flies to the Full Moon.
Ok, hein, bien joué.
Ça, c'est du titre. Kazuhiro Fujita. Un manga, donc tu as compris, Roger, c'est un manga. Ouais. Tu sais...
Avec jaquette ou sans maquette?
Avec jaquette.
Oh putain. Ils m'ont les...
Ah bah quand ils m'ont vu, ils ont dit « Attends, reviens !» Et ils me l'ont mis. Toi, t'y as droit, ils m'ont dit.
Ah putain, ça n'est que des jaquettes.
Ouais, un one-shot. Ouais. Un manga en un épisode. Alors, le personnage principal est un oiseau. Le personnage principal est une chouette.
Ok.
Qui s'appelle Minerva. Minerva est originaire du Japon et dans certaines circonstances, elle va faire, on va dire, un détour par les États-Unis. Elle va en revenir alors avec les gros moyens. Elle en revient dans un porte-avions de l'armée américaine.
Wow.
Et elle va s'échapper de ce porte-avions. Ta 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 ta. Retour au pays. Le problème, c'est que Minerva, c'est pas n'importe quel oiseau. Quand elle te regarde, tu meurs.
Oh.
Quand elle te regarde, tu meurs. Donc la chouette avec ses grands yeux comme ça. C'est et donc c'est un hécatombe au Japon.
C'est la Minerve des
oui,
romans.
Oui, c'est Minerve. C'est ça. Tout à fait. Ouais.
C'est bravo
exactement
Roger.
La même chose.
Bravo Roger.
Oui.
C'est exactement ça. Et donc tu vas voir comment un vieux chasseur japonais qui a déjà croisé la route de Minerva, sa fille qui est comment on appelle ça, chamane.
Okay.
Et puis surtout l'armée américaine. L'armée américaine avec ses cow-boys, ses gros moyens, ses agents de la FBI vont essayer en fait d'arrêter cet oiseau qui est arrivé à Tokyo et qui tue par journée des milliers et des milliers de personnes. Donc c'est le combat entre l'humanité pour essayer de survivre, parce qu'après le Japon, où ira-t-elle? Alors ce qui est très rigolo, c'est tout la relation japonaise-États-Unis. Mmh. Où tu sens bien que c'est vraiment c'est un oxymore leur relation, quoi. C'est un amour-haine assez fort. C'est assez intéressant pour ça. C'est hyper efficace. Et moi j'ai beaucoup aimé cette interprétation, on va dire toute personnelle, effectivement de Minerve.
Ouais.
Mais c'est un parfum de ces grands films de catastrophe et tout. Moi j'adore. Ouais. Donc c'est un one shot de alors Kazuhiro Fujita. Qui aurait apparemment fait aussi Karakuri Circus. Je connais pas,
ah,
absolument
oui.
pas.
C'est chez connaissez... Meian, ouais.
Ouais, c'est ça. Ben, là aussi, c'est okay. chez Meian, en fait. Un one shot, donc la lutte contre cet oiseau. Et alors, allez, je remets pour le plaisir.
Oui,
le
s'il
titre.
Vous plaît.
The Wicked Eyes Fly to the Full Moon. Ouf, 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 ouf.
Et c'est bien si c'est un one shot.
Ouais,
c'est cool.
Et c'est plutôt, c'est assez chouette.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que
on
non,
peut
non.
Prendre un peu,
ah non, non, c'est, je dis ça parce que souvent il y a des séries qui sont assez longues en manga. Et c'est assez rare
dériver,
quand même les mangas one shot. Et du coup, nous on a quand même de la demande là-dessus. Et c'est chouette d'avoir parfois une histoire autoconclusive comme ça.
Autoconclusive, Roger.
Eh ben, vous parliez de one shot. Oh voilà. Oh voilà. Alors, il m'arrive, mon bon monsieur Plume, d'avoir pas trop le moral. Il y a des jours, voilà, je suis pas bien. Alors, je vais à la librairie dans Luteron, non. Et j'essaye de quémander quelques ouvrages afin de me distraire et tu vois.
Faites-moi rire.
Ouais, faites-moi rire. D'éviter d'acheter une corde, de pas chez le marchand de cordes qui jouxte justement la librairie dans Luteron, non. Et là, je tombe sur Madame Matavadora en verve. Qui était ce jour-là, effectivement, peut-être vous aviez peut-être une prime à gagner le jour-là, prime de gros panier, j'en sais rien. J'ai été le
non,
gros
panier. C'était débarrasse-nous de ça, putain.
Le gros panier du jour, avec deux ouvrages que je ne saurais alors conseiller à tout le monde.
Par lequel commencer?
Lequel commencer? Allez, on va commencer par. Parce que celui-ci, j'y reviendrai, mais alors celui-ci a déjà eu une chronique dans le Canard Enchaîné, je rigole pas. Les cinq amis de Fab Caro, l'échappe belle in extremis, ils viennent d'avoir une chronique dans le Canard Enchaîné de Yakar.
C'est hilarant
jours,
en
donc,
même temps.
Voilà,
c'est
donc, on va pas trop. Mais
vous pense, éloignez pas, revenez à l'album.
On va revenir. Mais revenons à l'album. D'abord.
Non, on n'a pas assez parlé du Fab Caro, moi.
Et justement, à cet ouvrage de Félix Kerjean, dont j'avais déjà chroniqué, vous allez m'aider d'ailleurs, parce que c'est vous qui me l'aviez vendu.
Jurassic Reich. Un rapport à votre passion.
Ouais, voilà, pour l'histoire.
Les dinosaures.
Et l'archéologie. C'est-à-dire que vous m'aviez vendu une thèse d'archéologie selon laquelle, effectivement, les nazis auraient été dans le passé pour buter du Tyrannosaure Rex.
Ils sont bien sur la face cachée de la Lune.
Intéressant, oui,
intéressant.
Alors.
Et il se trouve que ce jour-là, vous avez dit, vous avez aimé Félix Kerjean dans La Fureur du Reich, vous allez adorer Félix Kerjean dans La Fureur de Jouir, collection BDQ.
Mais je vous ai prévenu quand même, c'est dans l'étage qui n'est pas accessible,
Il faut dire maintenant que là, le problème c'est que c'est Madame Matadora qui tient les livres olé olé, alors plus personne n'ose en acheter, parce que genre t'as 18 ans toi, tu vois, elle me regarde... Chaque éditrice et auditeur, si vous voulez acheter des bouquins de Mich comme ça, vous dites toujours c'est pour une amie, un ami, mon mari, ma femme.
Faut pas faire trembler le rayonnage.
Oui, faut pas faire trembler le rayonnage. Ça me dirait bien que vous me mettiez les VRP d'ailleurs, les livres de fesses.
Ah, je l'ai pas là.
Merde. Qu'est-ce qui vous a pris de me conseiller La Fureur de Jouir? Un animal, c'est aussi un cul avec du poil autour de Brigitte Bardot. Parce que moi, j'ai acheté ça en toute confiance et ma chérie, dont je partage le lit, me dit mais c'est quoi ce livre-là? Donc j'ai été obligé de le finir en cachette, quoi. Vous voyez un petit peu le côté détraqué. Et n'ayant pas envie de finir, en prison, en véhiculant ou en promotionnant des ouvrages totalement, délirants, alors je vais vous demander de me faire la chronique, parce que moi, je peux pas.
Non.
Si, moi, je peux pas.
Ah bah non.
Alors, je vais résumer l'affaire. Je vais résumer le pitch, chers auditrices et auditeurs, dans La Fureur de Jouir.
C'est Hitler qui se tape des animaux.
Voilà, on trouve Hitler qui a un autre métier que celui d'exterminateur de la race humaine. C'est, soigneur dans un zoo. Sauf qu'il se trouve, et là, ça y est, elle est morte de rire. Et elle, dans le zoo, en fait, il kiffe les bêtes, quoi. Il kiffe les bêtes au-delà du raisonnable.
C'est au-delà du kiff.
Il kiffe les bêtes au-delà du raisonnable. Et, c'est un ouvrage quand même intéressant, parce qu'il y a une référence à des bandes dessinées classiques, Tintin au Tibet.
Tout à fait.
au Tibet, hein, quand Hitler...
Bah, là, on voit, y a tout ça, c'est Tintin, là.
Ah là, c'est Tintin.
Tintin avec
y en a une autre
moustache.
Aussi. Celle-ci, quand...
Comme quoi, la moustache, hein.
Quand Hitler quitte la grotte et que le... Non, oui. C'est très bien. Donc, effectivement, on voit les pérégrinations de Hitler, dont, effectivement, le vice
dont
caché...
Dont la vie affective est mouvementée, donc.
Ouais, le vice caché est d'être quand même vaguement zoophile sur les bords. Et non seulement on trouve Adolf Hitler, mais cet ouvrage fait également référence à Albert Einstein. Albert Einstein, qui est en fait le vrai directeur du zoo, et qui a créer des entités. Alors, tu peux expliquer, parce que là, j'ai pas compris, Madame Matadora. Quel était le but de l'explosion du phallus géant rose, en fait?
Alors, figurez-vous, mon bon Roger, que je n'ai pas lu ce livre depuis
Comment
2022.
Comment ça, vous ne l'avez pas lu?
Si, je l'ai lu, mais pas depuis 2022. Donc, je me souviens plus de tout. Et là, je constate ce gros phallus explosif.
Non, mais ça sent la fuite.
Je me souviens plus de tout. Moi, j'ai vraiment retenu...
Un grand phallus, vous êtes sûr,
hein. Ah bon, du sexe dedans.
Vous voyez après, vraiment de tout, n'importe quoi dans les nuages.
Et après cet ouvrage qui promeut quand même des relations sexuelles interespèces, la collection BDQ est fière de vous offrir une réduction pour zoo de Vincennes pour votre spectacle à Paris.
Ah oui,
c'est voyez, ça. Vous riez. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça vous a diverti? Est-ce que ça vous a fait penser à autre chose?
Il a fallu que je le lise dans le noir avec la lumière de la lampe torche pour éviter que ma femme ne se rende compte du genre de lecture que je pouvais avoir.
Oui. Elle vous connaît. Hein.
J'ai été obligé de vous balancer, hein. Tout de suite. D'ailleurs, elle veut vous voir. Elle dit, c'est quoi cette histoire? Bref.
Mais est-ce que ça vous a amusé vraiment?
Alors, je dois avouer que... D'un point de vue,
tu peux t'arrêter là.
Bah, c'est le critique qui parle. Comment l'aspect cul est bien mené. Hein, on y trouve une scène de fellation ou de sodomie tous les trois pages. Là-dessus, il y a de la marchandise. On nous vend pas de la merde. Par contre, au niveau des, comment, de la rigueur historique, quand même, je pense que Jurassic Reich, d'ailleurs le livre qui divise la communauté scientifique, était, me paraissait quand même beaucoup plus sérieux. Bref, si vous vous intéressez au travail de M. Félix Kerjean, Mme Matadora se fera un plaisir. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et Félix Kerjean?
Je ne sais pas. Moi, dès qu'on se moque un peu de l'image des nazis, d'Hitler, tout ça, ça marche. Donc forcément, là, c'est poussé au maximum. Et j'aimerais beaucoup rencontrer Félix Kerjean pour qu'il m'explique la jeunesse de ce projet, quand même, parce que c'est quand même complètement foufou. Enfin, c'est...
Ah, c'est pas foufou, je dirais.
Ouais, c'est en train de réfléchir au mot
foufou. Non, mais je me dis, comment on peut avoir cette idée? C'est quand même dingo, quoi.
Et puis, il va peut-être falloir aussi... Alors, je sais pas ce qui se passe, mais vous avez remarqué aussi que j'ai l'impression qu'Hitler elle habite au niveau du nombril.
Ben oui.
C'est assez curieux. Et je découvre ça à l'instant. Peut-être un problème de perspective.
Je pense, ouais, il y a là la lumière. Là, c'est quand vous avez éteint la lumière.
Voilà. Heureusement, quand même, un ouvrage que je pouvais lire en compagnie de ma chérie.
Ah, mais il en chaîne deux.
Oui, parce que dire aussi qu'elle travaille, elle peut aussi travailler de manière, je dirais, moins clivante. En me proposant un ouvrage dont la réclame a même été faite dans le Canard enchaîné, Les cinq Samis des Chapbel in Extremis. Un hommage, de Monsieur Fab Caro à Enid Blyton, qui était l'autrice de la série de Club des Cinq, Enid Blyton, je crois que c'est ça. Et avec des dessins des illustrations de Monsieur Gers. Et ouais. De Guillaume Gers, qu'on retrouve dans Vermine, etc. Donc, que du bolage tout de suite. On sait à qui on a affaire. Alors, c'est vrai que vous ne m'avez pas menti, pour rire, on riait. Je l'ai un peu pourri à ma chérie, qui va peut-être renoncer à lire, parce que je crois que je lui ai lu toutes les pages. Dans cet ouvrage, on découvre que les cinq amis vivent dans un milieu, on va dire, un peu conservateur. un peu conservateur, qu'ils ont une domestique qui peut être louche parce qu'on a du mal à comprendre ce qu'elle dit. Elle a également des voisins qui sont des espions, sûrement pour le compte de la Russie, mais dont on se rend compte de rien parce qu'ils n'ont pas des têtes de Roumains. Et M. Fab Caro fait bien, parce qu'à travers cet hommage, il appuie où ça fait mal, à savoir que, quand on croit avoir des amis roumains, il va même, notre personnage va même échanger son sang avec un Roumain, en fait. On ne doit jamais faire confiance à un Roumain, parce que parfois, sans en est pas, ça peut être des Syriens. Et c'est ce qui est souligné dans cet ouvrage. Large part est faite aussi à une critique en règle de l'éducation nationale, où le travail des profs est honteux et que dès le mois d'avril, ils passent leur temps à regarder des films avec leurs gosses dans les salles de classe. Ah oui, tout y passe. On voit là qu'effectivement, M. Fab Caro avait des choses à dire. Il tenait à régler ses comptes avec la bureaucratie idiote et incapable, les fonctionnaires qui sont payés pour rien, et ces maudits Roumains qui pourrissent la vie quand même des cinq amis pendant leurs vacances. Et c'est bien dommage.
Cinq amis d'extrême droite, un peu, on pourrait dire.
Alors, on apprend aussi. Alors, j'ai quand même appris des choses, notamment le danger de se baigner avec ses règles. Et comment dire,
Apolline risque sa vie.
C'était cette espèce de running gag où on découvre effectivement, Fab Caro nous fait découvrir que quand vous avez vos règles, monsieur Plume, eh bien vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus monter les escaliers 4 à 4, vous ne pouvez plus aller vous baigner, vous ne pouvez plus aller faire du volet, vous ne pouvez plus rien faire. Bref, vous ne pouvez plus faire rien du tout. Et c'est quand même des découvertes qu'il était temps d'apprendre, d'où aussi l'intérêt pour les jeunes de retrouver le charme de la Bibliothèque Rose, parce que l'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'en plus, il ressemble pile poil à la collection Bibliothèque Rose.
Sauf que là, c'est la bibliothèque du Monotrême.
Donc, si vous avez des amis d'extrême droite et vous voulez pourrir leurs gosses, et s'ils font lire à leurs gosses des bouquins de la Bibliothèque Rose, planquez donc les cinq amis Echabel in Extremis dans la collection de la Bibliothèque Rose.
Moi, je dirais, je me permets une petite précision, c'est si vous avez des amis d'extrême droite, changez d'amis.
Oui, mais on peut aussi leur laisser ce bouquin-là dans la bibliothèque, histoire de...
Pour dire au revoir, quoi.
Pour dire au revoir. Et ben voilà, La Fureur de Jouir, Les cinq amis de Chapbel et d'Extrémis. Merci, Madame Matadora.
Ah bah avec
bon conseil
plaisir.
De lecture pour
avec
l'été.
Avec plaisir.
Plaisir d'offrir.
Et maintenant, Pauline Béton vous interprète Oh, les livres de fesses.
Je me suis décidé à entrer, un petit sourire au caissier. vu que je suis pas un habitué. Un habitué tu à la vie, oui, oui.
Un habitué.
Je veux y être l'auto-journal, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'est vraiment le moral, c'est plutôt les livres de fesses. Les livres de teux, les livres de fesses.
Oh, les livres de fesses.
Sensiblement, je m'éloigne mais des lectures un peu moins sages. Il m'a fallu avoir une bonne poigne pour pas faire trop de rayonnage. Trop de
Oh, le rayonnage.
Un bref coup d'œil circulaire va lui permettre de foivir le spécial gros chien d'enfer avec lequel il va s'enfuir.
Il va fanfan, il va fufuir. Oh, il va s'enfuir.
Enfin, j'arrive à la caisse et j'achète le télé 7 jours. Parce qu'avec les livres de fesses, ben, il faut quelque chose pour mettre autour. Pour mettre autour, pour mettre autour.
Oh, pour mettre autour.
Alors, télé 7 jours, 25 centimes, prends 12, 7,50, prends-moi salope. C'est combien, Solange, prends-moi salope.
15,20.
T'as mis une poche plastique?
Ah non.
Puis-je pas transparent en commun? Mais en m'agrippant la barre, les revues me glissent des mains. On va mal prendre des barres.
Oh,
oh, c'est
non!
Oh, bah,
ils sont merdants, les gars! C'est relou, t'as vu les meufs?
Les VRP, tout le monde avait reconnu, j'espère. C'est énorme morceau. Les frères Jacques Punk.
Oui, c'est ça.
J'adore. On a encore un peu de temps.
Ouais.
Et
ça doit être à Madame Matador.
Exactement.
Eh bien, j'étais en train de demander laquelle des deux j'allais chroniquer, mais je crois que comme on était sur du BDQ, moi je vais faire de la BD-cœur.
Contre
Kems.
Au moins qu'elle retombe bien sur ses pattes.
Pour redorer un peu mon image. BD-cœur, du coup, c'est une petite collection qui a été...
Tu vois, là, être crédible. BD-cœur, nous dit-elle, il n'y a que nous qui voyons les petits cœurs que vous faites désespérément dans le micro.
J'ai vu des petits cœurs partir. Une licorne.
Ouais, moi aussi, j'ai cru voir les licornes à la fête.
Un petit arc-en-ciel.
Ah non, c'est comment c'est Bertrand.
Alors, BD-cœur, c'est une collection qui a été lancée après BDQ, où là, on est sur... là, il n'y a pas de zizi, pas de fesses, pas de vagin. On est sur de l'histoire d'amour. Et là, dans cette histoire, moi, je vais vous parler de Étienne, du coup, de Léa Djeziri. Étienne, donc, on voit tout de suite sur la couverture que ce personnage est nettement inspiré d'un extraterrestre très célèbre du cinéma de...
Predator.
Presque. D'un extraterrestre qui a pour ami un petit Elliot.
Salut, qui a une espèce de gros doigt qui est dégueulasse qui s'allume.
Un gros doigt qui s'allume.
Avec
c'est
un gros
ça.
Mickey au bout.
Et donc, E.T., Étienne, je trouve que c'est bien choisi. Vous êtes dégoûtant. Vous êtes dégoûtant. Des gros dégueux.
Mais non, mais c'est vous aussi.
Non, oui, c'est moi.
Attends.
Qui achète la fureur de jouir, c'est pas moi.
Franchement, c'est vous qui me l'avez vendu.
Bah oui.
J'avais jamais entendu parler de Félix Kerjean.
Vous pensiez qu'avec Histoire de cœur, ça allait se passer comme ça, tout
bah
simple.
Bah oui, parce que ça mérite. Mais en plus, c'est hyper drôle, c'est hyper touchant, c'est alors, hyper allez-y. Bien pensé. Étienne, donc, on retrouve donc, le personnage de E.T. qui s'appelle, en vrai, Étienne, qui est une star du cinéma, mais une star qui n'a plus aucun succès depuis E.T., justement, et qui vit un drame amoureux, une rupture vraiment très compliquée. Notre Étienne est malheureuse. D'ailleurs, c'est un personnage qui est pas vraiment genré, et qui se traîne, qui cherche désespérément à avoir un petit rôle au ciné, mais ça ne prend pas, tout le monde se fout un peu de sa gueule quand il vient et qu'il espère jouer dans les nouveaux films à la mode avec des réalisateurs récents. Et puis, on est dans un monde où lui, quand même, va essayer à un moment de se reprendre en main, de se sortir un peu de sa condition et faire de nouvelles rencontres, sauf que là, on est dans un monde où les gens vivent leur rencontre, leur intimité, dans un monde virtuel. Donc, c'est-à-dire que même pour les rapports intimes, les gens ont des casques, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de discussions intimes, etc. Tout se fait de manière virtuelle. Et donc, lui, il ne comprend pas ça. C'est vraiment ce choc un peu générationnel. Il n'a pas suivi. Lui, ce qu'il veut, ce personnage d'Étienne, là, c'est être... être dans le charnel, dans l'intime, dans le contact avec l'autre. Et donc, ça le rend vraiment très, très malheureux, encore plus, je dirais, puisque il se sent déjà seul. Et là, il se dit que finalement, il n'y a pas d'issue, parce que les gens qu'il va rencontrer ne cherchent que de la relation virtuelle. Et puis, à un moment donné, envers et contre tout, forcé un peu, il sent qu'il y a une vraie pression sociétale, il va se faire implanter. Ce qui, en fait, les humains se font implanter un truc.
Ça a l'air hyper gay, votre truc.
En fait, c'est complètement décalé. C'est hyper drôle de voir cette BD à travers le personnage d'E.T.
Autant l'autre m'avait fait rire, autant celle-là me plombe le moral.
Ah, c'est vrai, mais faut pas. Non, faut pas, il y a de l'espoir. et en fait, il veut se faire implanter parce qu'il se dit s'il n'y a plus que ça, ça me fait trop chier d'être tout seul, donc je vais me faire implanter leur machin. Sauf que paf, au moment de l'opération, E.T., vous avez vu la taille de son crâne, il a pas du tout la même manière de. C'est pas du tout la même config, donc ça ne fonctionne pas. Donc ça va pas être possible pour
et
lui.
Là, il se fend.
Mais son cou est trop petit.
Non. Il n'a pas de cou.
Mais ça va réfléchir en fait à travers cette histoire qui a l'air très triste, très badante comme ça, mais en même temps, moi je riais parce que déjà les premières images où on voit E.T. sapé en costard.
Vous riez sur des tas de trucs hyper chelous, faut que vous compreniez.
Oui, mais je suis sûre que de l'autre côté, des gens sont comme moi, des gens me comprennent et viendront voir par curiosité ce dont je parle. Mais voilà, Étienne de Léa Jaziri, c'est vraiment une réflexion sur les relations, avec ce côté décalé qu'on retrouve dans les BD Cœur et les BD Cul. Et moi, que je trouve vraiment à chaque fois très réussi, enfin, ou en tout cas, quasiment tout le temps très réussi.
Et c'est vraiment la collection BD Cœur, alors.
C'est écrit, la collection BD Cœur. Et j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Vous pourrez demander à mes collègues, je riais en lisant cette BD qui semble pourtant très triste. Moi, je riais. Et il y a plein de références.
C'est peut-être votre côté punk aussi. Peut-être. Vous riez de la misère des gens, à nos futurs. Et puis,
c'est tout ce que j'ai pris, ça me... Ça m'a complètement détraqué. Mais oui, il y a... Non, maman, je rigolais, j'ai rien pris. Il y a tout un peu de...
C'est trop tard, dit, c'est dit.
Je vais faire un montage avec ça.
Non, mais il y a tout un tas de références. Il y a des références au film Ghost, avec Patrick Swayze, Demi Moore, tout ça. C'est vraiment les love stories des années 80-90. Et il y a une merveilleuse jaquette.
Oh, c'est incroyable.
Qui est offerte avec le livre à chaque fois. Donc moi, je recommande parce que Étienne, j'ai envie de dire, c'est un petit ovni sans mauvaise blague.
Oui. J'ai pas noté le nom.
Mais c'est trop
bien.
Étienne, comme le prénom.
Ça, oui, j'ai noté. Étienne. C'est de qui?
Léa Jaziri. Jaziri.
Et c'est paru chez
BD Cœur, c'est le Monte en l'air qui fait ça.
Très bien. Ah bah on a le temps d'un petit morceau.
Allez,
c'est parti.
I'm
danse dans ton salon.
Yes.
Sur Clutter. Voilà. On arrive au bout de cette émission. Donc la semaine prochaine, on ne sait pas encore très bien qui on aura.
Non, si mais
compris, on aura quelqu'un de la
boutique.
Il
y aura quelqu'un, ouais.
Il paraît qu'il y a un gros dossier qu'il faudrait voir avec Monsieur Fred. Rappelons-le.
Mmh. Oui, tout à fait. Un truc hyper sérieux.
Ça, tout dépendra s'il a pris des notes.
Oui, s'il s'est pas endormi.
Ouais, parce que je crois que nous, on n'aura rien à dire.
Va falloir l'aider.
On va jouer la carte. Faites appel à un ami. vous retrouverez toute la programmation musicale, toute la sélection BD de cette émission sur le blog. N'hésitez pas à consulter. Il y a de la dédicace dans la boutique dans pas longtemps.
Il y a de la dédicace le 13 juin. Nous recevons l'autrice Cat Style pour Les Chaventuriers, une BD jeunesse. Très cool.
Avec des chiens.
Absolument. Pour les enfants.
Vous avez le droit de recevoir des enfants dans la boutique.
Quand vous n'êtes pas là, oui.
Tac, le final.
Et pif.
Fatality. À la semaine prochaine, du coup.
Quand on a le droit.
Et bonne lecture, tout ça.
Ouais, ciao.